Les frappes d'Israël en Iran se poursuivent depuis une semaine et si les vagues de missiles iraniennes en riposte perdent en intensité, elles s'installent dans la durée. Le discours change côté israélien avec l'affirmation de plus en plus claire que la chute du régime est le but de guerre. Cependant que Donald Trump, tout en volant verbalement au secours de la victoire israélienne, en se félicitant d'avoir le contrôle du ciel et en exigeant la reddition inconditionnelle de l'Iran, temporise quant à l'intervention américaine effective aux côtés d'Israël. Les Européens européanisent en tentant de remettre en place une négociation de leur côté, dont on se demande s'ils y croient eux-mêmes. De leur côté, la Chine et la Russie lancent des avertissements sur les risques de déstabilisation de la région, mais ne bougent pas plus pour l'instant, demeurant dans l'expectative en croyant peut-être que la tempête va se calmer et que le régime iranien restera cramponné à sa forteresse nationale sans succomber à l'agitation intérieure recherchée et espérée par Israël. La guerre est-elle désormais destinée à durer? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 20 juin 2025, il est 21h44 et nous sommes en présence de l'inatteignable Léo Portal. Comment vas-tu mon cher Léo?
Ben, comme tu sais, rage de dents, donc au bout de ma vie, mais on est là, j'ai failli pas être là, mais on est là.
On
et
est
toi?
Toujours là.
Et toi,
on
comment
est
ça va?
Toujours là. Et nous étions là aussi au congrès le week-end dernier du 15 juin, ça a été un événement extraordinaire, j'en ai mis quelques photos sur Twitter, vous aurez pu aller les consulter, mais il y a aussi eu beaucoup de matériaux, on a beaucoup de rush et vous aurez une petite surprise en fin d'émission que vous a préparé Léo pour vous teaser un peu, hein, je peux dire ça.
Tu peux dire ça et on peut même dire d'ailleurs qu'est-ce qui se passe le 15 juin, Philippe, il y a un truc le 15 juin, n'oubliez pas, vous pouvez encore acheter des places. Bon, il n'y aura pas de congrès, mais c'est pas grave, ça servira quand même.
C'est ça. Alors, ce soir, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, la guerre qui continue, et quelques remarques que je voudrais faire justement, parce que, assez clairement selon moi, on va vers la mise en place d'une guerre longue. Alors, bien sûr, on ne sait jamais, on peut toujours être surpris, hein. Je rappelle maintenant, chat échaudé, craint l'eau froide, que lors de du premier échange de tirs qu'il y avait eu, avec les premières frappes iraniennes après l'attaque de leur consulat en avril l'année dernière, j'étais parti sur l'idée d'affrontement long, hein, j'en ai reparlé lors de l'émission de la semaine dernière. Finalement, à la fin, milieu de la nuit, les Iraniens avaient dit que c'était fini. Dernièrement, on a eu l'affaire indo-pakistanaise aussi, hein, où on avait eu l'impression que cette fois c'était sûr, et finalement, ça s'est bloqué aussi. Donc rien ne dit qu'il est impossible qu'il y ait des atermoiements. Des tentatives de reprise de négociations, etc. Pourquoi pas? Maintenant, je pense qu'on a quand même franchi un stade et que ça ne sera pas le cas. Alors, on aura peut-être une atténuation des combats, une difficulté à maintenir l'intensité des frappes, autant côté israélien que côté iranien. Mais je pense qu'on est quand même entré dans quelque chose qui va s'installer sur la durée. Pourquoi? Ben, pour diverses raisons. Assez fondamental. D'abord, vous avez Israël désormais qui ne peut pas vraisemblablement laisser le régime iranien survivre. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont partis sur cette stratégie qui est de renverser le régime iranien, qui veut leur peau, naturellement. Alors pour plusieurs raisons. Un, parce qu'en soi, ils veulent leur peau, donc s'ils peuvent se débarrasser du régime iranien, ils seront contents. Mais aussi parce qu'ils ont l'idée que si jamais ils n'ont pas la peau du régime, bah, d'une manière ou d'une autre, il va se remettre à progresser vers l'arme nucléaire, à refaire ses stocks de missiles balistiques. Et donc que ça ne sera que partie remise, alors qu'inversement, Israël n'aura peut-être pas la même occasion, la même conjonction stratégique qui leur a permis de se livrer aux frappes auxquelles ils se sont livrés à la fois depuis un an, et en particulier depuis ces derniers mois. En plus, véritablement, depuis le 7 octobre, ils sont sur une mobilisation nationale qui fait qu'ils ont envie d'en finir avec tout ça, donc politiquement, il y a aussi un intérêt. Et vous avez au pouvoir Benjamin Netanyahou, dont j'ai déjà dit maintes fois que probablement un des éléments les plus importants de sa psychologie personnelle, c'est qu'il se voit, il se donne comme mission d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme atomique. Il ne veut pas être celui qui aura pratiquement gouverné Israël pendant 15 ans d'affilée. Il ne veut pas être celui qui aura laissé l'Iran arriver à l'arme nucléaire. Or, dans la capacité de frappe israélienne jusqu'à maintenant, il n'y a pas la capacité d'aller de détruire totalement, semble-t-il, le programme nucléaire iranien. Ils ont encore avancé dans cette direction en frappant le réacteur à eau lourde de Darak, par exemple, cette semaine. Semble-t-il, a été détruit. Mais il y a toutes les installations de Fordo, celles qui sont situées sous la montagne, à, dit-on, 80 mètres de profondeur, probablement beaucoup plus. Qui posent problème puisqu'ils ne peuvent pas les atteindre. Alors, j'entendais l'autre jour, je ne sais plus quel général soulignait qu'il y avait quand même un point faible à ce genre d'installation, c'était les aérations. Et donc, a priori, si vous arrivez à détruire les aérations, vous ne pouvez plus rien faire au sol, hein, parce que ce genre d'installation dépend beaucoup de ces aérations. Mais j'ignore dans quelle mesure les Israéliens sont parfaitement renseignés sur ces aérations ou ont éventuellement les moyens de frapper. On a vu qu'ils avaient été capables de frapper jusqu'au cœur du territoire avec des drones transportés là par le Mossad. Donc, qui semble-t-il, il y a des ateliers de construction clandestine de drones en Iran même qui appartiennent au Mossad. Est-ce que ils seraient capables de frapper ça? Néanmoins, la question se pose, surtout que semble-t-il, pour détruire en tout cas les installations elles-mêmes, parce que bon, même s'ils arrivaient à frapper les problèmes d'aération, ça pourrait prendre du, ça pourrait comment dire, retarder le programme, mais avec un peu de BTP, éventuellement, ça serait finalement réglé. Ça ne causerait pas autant de dommages, ça peut paralyser temporairement, mais ça ne causerait pas autant de dommages aux installations que le fait de les détruire, éventuellement avec les bombes perce-bunker GBU américaines que les Israéliens aimeraient bien pouvoir utiliser. Simplement, d'après ce que j'ai compris, techniquement, elles sont beaucoup trop lourdes pour être transportées par autre chose que le B2. Et le B2, naturellement, les Israéliens n'en ont pas. Donc, pour larguer une telle bombe, il faut avoir la participation américaine. Et comme vous le savez, cette participation américaine, elle ne s'implique pas. Donc, le seul choix qu'ont les Iraniens, les Israéliens, la seule alternative, c'est d'arriver à faire tomber ou d'espérer que le régime va tomber de lui-même. Donc ça, c'est la première chose. Du côté de l'Iran, lui, ne peut pas vraiment accepter la défaite. Le régime ne peut pas accepter d'être considéré comme véritablement défait vis-à-vis de sa population. Alors, je pense qu'il a quand même un petit peu plus de marge malgré tout, parce que tout ce qui peut lui permettre de durer un peu plus et éventuellement d'avoir le temps de se rapprocher encore un peu plus de l'arme nucléaire est bon à prendre du côté du gouvernement, du régime iranien. Donc éventuellement, faire des promesses, essayer de se lancer dans des négociations, expliquer aux Occidentaux, aux Européens notamment, qu'Israël est méchant, qu'ils sont prêts à renoncer à leur enrichissement, etc., ça peut être une stratégie qui durerait. Mais je ne pense pas que ça dissuaderait les Israéliens de continuer à frapper, de toute façon, la façon dont ils se sont lancés là-dedans. Alors le problème, c'est que quelles seraient les solutions alternatives dans ce cas-là, si ça commence à durer? C'est que, encore une fois, les bombardements, au bout d'un moment, ça coûte très cher. Et puis, s'il y a des installations que vous ne pouvez pas atteindre, ben, vous ne pouvez pas les atteindre, c'est tout. D'autant plus qu'avec l'état de paranoïa dans lequel l'Iran s'est mis, alors bien sûr, ils ont beaucoup souffert sur leur structure de commandement, sur leur hiérarchie. Et peut-être que la présence massive du Mossad sur le terrain risque de créer une forme de bleuite, en tout cas. C'est-à-dire de méfiance interne et donc de paralyser certains services iraniens. Mais en même temps, ils se sont, semble-t-il, lancés véritablement dans une purge, une chasse aux sorcières très très violente sur l'ensemble du territoire, justement pour se séparer des gens du Mossad. Et ça risque d'avoir un effet. Et donc la capacité, dans la durée, pour Israël de travailler avec le Mossad à l'intérieur même de l'Iran, ça paraît un petit peu compliqué. À mon avis, au-delà de quelques semaines, quelques mois, c'est une capacité qui risque d'être assez fortement obérée. Et donc, dans ce cas-là, il vous reste quoi? Il vous reste un Iran qui peut-être aura de moins en moins la capacité de frapper Israël directement, mais qui aura en principe, en tout cas, la capacité de continuer à avancer vers son programme nucléaire, ce qu'Israël ne veut pas. Aura toujours probablement la capacité de frapper quand même un petit peu Israël avec ses missiles balistiques et de menacer. On a vu qu'ils, mine de rien, ils font quand même des dégâts, petit à petit, ils font des victimes, quelques dizaines, mais bon, ça commence à peser. Surtout pour un pays de la taille d'Israël. Et inversement, il faut se rendre compte que l'Iran en soi, c'est une forteresse. Alors vous avez plein de vidéos, et ça fait plusieurs années qu'on les voit circuler d'ailleurs, qui montrent à quel point l'Iran lui-même est effectivement une forteresse, avec tout son réseau de montagnes, de déserts. C'est très très difficilement pénétrable, c'est très grand, c'est un pays qui est vaste, et c'est un pays qui est énormément peuplé. Alors semble-t-il, alors moi j'étais resté sur 87 millions d'habitants, c'est la dernière estimation à peu près. J'ai vu beaucoup circuler là. L'estimation de 92 millions d'habitants, je ne sais pas si elle est juste, je ne sais pas sur quoi elle s'appuie, surtout que alors que la natalité est plutôt en baisse, passer de 87 à 92 en 2 ans, ça me paraît beaucoup, mais bon, semble-t-il qu'en tout cas, on est autour de 90 millions d'habitants pour l'Iran aujourd'hui. C'est gigantesque. C'est-à-dire que même pour les États-Unis, si les États-Unis devaient se mettre à bombarder l'Iran, envahir l'Iran, en revanche, c'est quand même une autre paire de manches. D'abord parce que au niveau géographique, c'est pas du tout la même chose que d'envahir l'Irak, hein, au niveau, encore une fois, à cause des montagnes, etc. Peut-être que si, Léo, tu peux nous trouver une carte en relief de l'Iran, les gens verraient comment c'est. Du Moyen-Orient dans son ensemble, si vous voulez voir aussi l'Irak, vous verrez qu'il y a vraiment une différence. Il y a plein d'endroits où ça s'apparente plus à l'Afghanistan qu'à l'Irak, mais avec une population qui est triple. Une population qui vraisemblablement n'attend pas, en tout cas pour une partie d'elle, une suffisante les Américains libérateurs. Et de toute façon, ça ferait, si vous voulez, de l'Iran le pays le plus peuplé que les États-Unis aient jamais tenté d'envahir de toute leur histoire. C'est-à-dire que l'Allemagne d'Hitler était moins peuplée que l'Iran aujourd'hui. Donc c'est véritablement, ça serait quand même un très 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 gros morceau d'essayer d'aller mettre le pied là. Je ne pense pas que les Américains aient l'intention d'y mettre le pied pour l'instant. Je pense que vraisemblablement, ce qu'envisage de faire Donald Trump, c'est des trucs faciles, c'est-à-dire où vous bombardez, mais avec le fameux pas de troupes au sol. Donc très compliqué d'aller chercher les Iraniens là-dedans. Trop gros morceau, je disais. Donc la guerre peut commencer à s'enliser comme ça. Ça peut tenir un moment. Rappelons que c'est ce qui était arrivé à l'époque à Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, lui, il avait 800 000 hommes alignés sur le terrain en face des Iraniens, qui en alignaient autant ou un peu plus. Et alors que Israël n'a pas ces moyens-là. Et puis de toute façon, n'a pas envie de traverser toute la Jordanie et tout l'Irak pour aller attaquer et envahir l'Iran. C'est pas du tout l'idée. Et les Américains n'en ont vraisemblablement pas envie. Donc, tout ça, encore une fois, ça vous donne, selon moi, des ingrédients pour la transition progressive vers une guerre longue. À partir du moment où on exclut la possibilité d'une solution, encore une fois, négociée qui viendrait trouver un autre accord. Donc, je pense qu'on est en train d'entrer là-dedans. Et comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, je ne pense pas que le régime puisse tomber tant que le corps des gardiens de la Révolution est suffisamment puissant. Et derrière lui, toute une partie de la société, puisqu'il y a malgré tout toute une partie de la société iranienne qui soutient le régime, qui est extrêmement attachée. Il ne faut pas oublier que l'ayatollah Khamenei n'est pas le guide suprême n'est pas je ne sais même pas s'il a la dignité d'ayatollah, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas. Le problème, c'est qu'à la base, c'était pas un savant en matière religieuse. D'ailleurs, sa nomination avait fait grincer les dents. Bref, le guide suprême iranien est une figure religieuse extrêmement importante. Donc, il y a aussi ce côté-là. Hein, pour les chiites, alors, je ne vais pas dire c'est leur pape, c'est pas exact, mais il y a quand même un petit peu voilà, ce lien de chef religieux, ce qui rajoute quand même une dimension de fidélité que n'a pas un simple chef politique. Donc c'est quelque chose de véritablement très, 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 très important qui joue aussi sur la fidélité de toute une partie de la population. Même si on a vu que depuis ces dernières années, le régime n'avait sans doute jamais été aussi fragilisé. Et d'ailleurs, je crois que j'ai déjà dit un petit peu que vraisemblablement, le régime des Mollahs, le fameux régime des Mollahs, est en réalité depuis les révoltes de 2022 entrer dans sa phase, ce qui est un petit peu l'équivalent pour l'Empire allemand, si vous voulez, pendant la guerre de 14, la phase des Dioscures. Ce qu'on appelait les Dioscures, c'est Castor et Pollux, hein, c'est-à-dire ceux qui viennent, les héros qui sauvent la cité. En l'occurrence, c'était le surnom qu'on donnait à Hindenburg et Ludendorff. Et en réalité, à partir de la moitié de la guerre à peu près, l'Empire allemand est de facto dirigé par une dictature militaire, c'est-à-dire par Hindenburg et Ludendorff. C'est-à-dire que c'est toujours l'empereur allemand aussi qui décide à côté, mais enfin, le Reichstag, le chancelier, tout ça n'ont pratiquement plus aucun pouvoir, hein, puisque tout est ordonné à l'industrie de guerre, tout est ordonné aux nécessités de guerre, et les commandants en chef militairement, c'est Hindenburg et Ludendorff, donc c'est eux qui tiennent le truc. Donc la militarisation du régime, si vous voulez, en fin de course, c'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau, hein, c'est même assez classique dans les fins d'ancien régime comme ça. Donc le corps des gardiens de la Révolution a vraiment militarisé le régime autour de lui. D'après ce qu'on a entendu cette semaine, alors ce sont des rumeurs, j'ai pas vu de choses extrêmement sourcées, mais d'après ce que j'ai entendu, il semble que le guide suprême ait transféré une partie, délégué une partie de ses pouvoirs au Conseil des gardiens de la Révolution. Ce qui signifie donc la transformation d'un organe plus collégial, c'est-à-dire quelque chose de plus, comment dire, de plus résilient, si jamais notamment il y avait une frappe qui tuait effectivement Raménei, ça veut dire qu'il n'y aurait pas véritablement de vacance du pouvoir, c'est une junte en fait, une junte du corps des gardiens de la Révolution qui tiendrait le pays et qui serait à même éventuellement de continuer à se battre. Comme je l'ai déjà dit, ce genre de régime ne tombe qu'une fois que son pilier militaire est vaincu. Hein, ce qui est arrivé à l'Empire allemand, la Reichswehr était vaincue. Elle a dû signer la paix. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été vaincue, que c'était le coup de poignard dans le dos, mais elle était vaincue. En fait, on aurait pu arriver à Berlin si on avait continué, si le sang avait continué à couler. Et surtout, elle est délégitimée, c'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de soutenir cette force-là. Un petit peu dans le même genre, vous avez eu, voilà, il faut qu'elle soit au moins humiliée, si vous voulez, c'est-à-dire vaincue suffisamment pour qu'elle se replie et que ça envoie le signal qu'en fait, elle est plus capable de tenir le pays. C'est ce qui est arrivé aussi avec l'armée soviétique, par exemple, avec la défaite en Afghanistan, quoi. Avec la défaite en Afghanistan, le repli de l'Afghanistan, qui a fait qu'en fait, envoyer l'armée ensuite pour essayer de tenir l'Allemagne au moment où l'Allemagne de l'Est, par exemple, au moment où le mur de Berlin est tombé, ou la Pologne, etc., c'était plus possible parce que la population soviétique avait déjà été assez éprouvée par les morts de la guerre en Afghanistan et par cette guerre qui avait duré, qui était interminable. Et donc, il n'y avait plus le ressort moral pour nourrir ça. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Vraisemblablement, en Iran, on a encore des gardiens de la Révolution qui sont encore capables d'encaisser une semaine d'humiliation par bombardement sans être affectés. Alors, donc, c'est pour ça que moi, ma théorie sur laquelle je reviens et que je maintiens, je l'ai déjà évoquée, c'est que je pense que le plus logique, si de l'extérieur on cherche à faire tomber le régime des mollahs, c'est et qu'on considère, parce qu'il y a de plus en plus de parallèles en plus qui sont faits par ça, hein, de gens qui en parlent, j'ai vu Gilles Kepel, mais j'en ai vu d'autres aussi, qui comparent l'Iran à l'URSS, et c'est vrai qu'il y a un côté, déjà ce sont deux anciens régimes, très clairement, mais en plus ce sont deux anciens régimes qui sont aussi le centre d'une certaine vision de leur ère civilisationnelle, c'est-à-dire que l'URSS portait la vision communiste à l'échelle mondiale. Et l'Iran, malgré tout, reste le symbole de ce qu'est l'islamisme à l'échelle mondiale. C'est-à-dire un État, véritablement, encore une fois, je vous l'avais déjà expliqué, qui a mis en pratique, dans le cadre de sa révolution, les principes des frères musulmans, qui avaient été importés dans le chiisme, puisqu'à la base, ça venait du sunnisme, c'était les préceptes de Saïd Koutoub, mais qui avaient été importés dans le chiisme, et c'est ça qui a été mis en place, en fait, lors de la révolution islamique. Donc la République islamique d'Iran, c'est quelque chose, en fait, qui correspond à la vision politique de l'islam, même si c'est transposé dans le chiisme, de l'islamisme politique. Donc ça a un côté URSS, si vous voulez, de l'islamisme, en fait, l'Iran aujourd'hui. Et donc, naturellement, une chute de l'Iran aurait un poids géopolitique très important, mais ça veut dire aussi que pour les Occidentaux, dans la manière dont traiter ce problème-là, il y a tout l'appareil de comment est-ce qu'on fait tomber un régime sans envahir qui se met en place. Et donc, cet appareil intellectuel, notamment, il comprend la stratégie habituelle qui avait fait tomber l'URSS, qui peut être tournée notamment contre l'Iran, où il y a déjà les sanctions, etc. Mais il faut aussi un Afghanistan. pour affaiblir justement l'armée au long cours, discréditer à la fin le régime, l'épuiser moralement et faire en sorte que ça s'effondre, qui est le coup de boutoir final. Et ça, vraisemblablement, la région la plus facile pour viser ça, c'est, alors ça pourrait être l'Afghanistan d'une certaine manière, parce qu'on pourrait faire en sorte que le conflit de l'eau qui est entre l'Afghanistan et l'Iran dégénère du côté des talibans notamment. Il s'est déjà passé quelque chose ces derniers mois. Hein. Il y a eu des frictions de ce côté-là. Il y a même eu des problèmes entre le Pakistan et l'Iran à propos des mêmes genres de tribus rebelles. Mais selon moi toujours, et je vous l'ai expliqué la semaine dernière, je ne vais pas revenir en détail, mais je pense que c'est essentiellement l'Irak qui pourrait faire l'objet de ça, c'est-à-dire le fait une guerre par proxy finalement entre les milices chiites irakiennes, qui sont traditionnellement appuyées par le corps des gardiens de la Révolution, notamment la brigade Al-Quds, et de l'autre côté, vraisemblablement, des supplétifs ou des faunés syriens, peut-être notamment les Kurdes, les YPG par exemple, qui seraient soutenus plutôt par les Occidentaux, donc les Américains, et de l'autre côté, un certain nombre d'autres milices ou armées syriennes carrément, puisque d'ores et déjà, les Syriens ont envoyé 3000 hommes à la frontière avec l'Irak, alors que d'habitude ils ne le faisaient pas, c'était une frontière qui était tranquille, on va dire, depuis la chute de l'État islamique. Mais ils le font maintenant en expliquant qu'ils craignent qu'il y ait une tentative de pénétration des milices irakiennes, c'est-à-dire qu'en gros, l'Iran n'essaye à travers le territoire syrien de venir s'attaquer à nouveau à Israël, vraisemblablement via le Liban, enfin comme il faisait jusque-là. Hein. Donc du coup, il y a vraisemblablement des choses qui se mettent en place. Alors ça va probablement pas se faire de même, mais il y a un intérêt occidental éventuellement à tenter de mettre en place une guerre par proxy contre l'Iran pour la partie au sol en Irak. Ça serait pour la stratégie guerre par proxy. Après, il y a au plan interne en Iran d'autres manières de faire les choses. Alors, les Israéliens, et c'est un petit peu aussi ce qu'a suggéré Donald Trump, ont parlé beaucoup de chute de régime, de renverser le régime, en fait, d'en finir avec le régime des mollahs et des gardiens de la Révolution, et de les remplacer par autre chose, en appelant notamment la population à se révolter. En diffusant des messages de l'héritier du chat pour tenter de créer quelque chose. Alors, il y a très peu de chances que ce soit le cas, parce que le chat, à l'époque où il a été renversé, il était quand même détesté, le père hein, de l'actuel. Donc, il ne représente pas grand-chose, le gars. Hein. Souvent, les Occidentaux ont tendance à venir chercher un type. À l'époque où il y a eu la révolution égyptienne, on avait voulu aller chercher le. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'était pas El Baradei, Mohamed El Baradei, l'ancien patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui était un Égyptien, pour dire éventuellement ça pourrait être le nouveau chef de l'Égypte qui nous plairait bien. En fait, c'était qu'en Occident, le seul Égyptien démocrate qu'on connaissait, c'était lui, donc on s'est dit, il servira très bien. Bon, ça marche pas comme ça, hein. C'est pas parce que vous connaissez quelqu'un en Occident qu'il a forcément une assise au plan local, hein. Donc en l'occurrence, c'était pas le cas. Donc ça a peu de chances de marcher. En plus, moi, je pense que dans ce que font les Israéliens et les Américains et ce qu'a fait Trump la semaine passée, c'est extrêmement contre-productif sur le plan de la recherche d'une révolution interne. Dans le sens où, alors, j'ai entendu beaucoup de gens dire la guerre, c'est pas du tout dans ces circonstances-là qu'on fait des révolutions parce que les gens ont peur, ils sont derrière le régime, etc. Alors ça, c'est pas vrai. Sinon, il n'y aurait pas eu de révolution en Allemagne en 1918 si ça avait été le cas. C'est pas le cas. Vous pouvez très bien avoir une révolution dans un pays en guerre. Le problème, c'est que pour avoir une révolution dans un pays en guerre, il faut que l'arrière ne soit pas frappé militairement. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il ait la guerre chez lui. Grosso modo, il faut que dans la capitale, tout soit tranquille, d'accord? Alors les gens peuvent avoir des problèmes. Dans l'Allemagne de 1918, ils crevaient la dalle, il y a eu 700 000 morts de la famine dans le pays, très bien, mais c'était en paix. Mais donc du coup, ils avaient des problèmes socio-économiques, hein, quand vous n'avez pas à bouffer, etc. Mais ils étaient sur place, et donc ils se révoltaient. Et donc vous avez une population à l'intérieur des grandes villes, et notamment de la capitale, qui est là. Qui en a marre, qui souffre de pénurie, etc. Donc, qui se révolte. Et là, vous pouvez espérer avoir un renversement du régime par le peuple. D'accord? Donc, il faut que les centres-villes soient pleins de la population et que cette population, grosso modo, ne voit pas les bombes. Bon. Or, là, que font les Israéliens? Ils ont bombardé énormément dans la région de Téhéran ces jours-ci. Alors, pour toucher des points névralgiques du pouvoir, notamment la télévision d'État, etc., très bien, ça peut avoir un rôle, effectivement, ensuite dans le discrédit du pouvoir central. Mais le problème, c'est qu'en même temps, ils ont lancé des appels à l'évacuation de Téhéran. Donald Trump en a rajouté dans cette veine-là, en disant qu'en fait, il fallait que la population évacue Téhéran. On a vu des embouteillages qui ont été interprétés. Alors, j'ai vu des messages contradictoires, mais en fait, semble-t-il, pour l'essentiel quand même, il y a effectivement une partie de la population de Téhéran qui a quitté Téhéran, par peur de ce qui pourrait lui tomber dessus. Et le problème quand vous faites ça, c'est que vous videz les centres-villes, et en particulier la capitale, de la population dont vous attendez qu'elle se révolte. La population, elle va pas se révolter alors qu'elle sera en plein exode. C'est pas comme ça que ça se passe. La population, elle, pour qu'elle se révolte, encore une fois, il faut qu'elle reste sur place. Donc le fait de faire en sorte que Téhéran soit évacué, si ce que on recherche, si ce qu'Israël recherche, c'est que le régime soit renversé par la population, bah, en général, ceux qui renversent le régime, c'est la population urbaine, c'est les élites urbaines, c'est eux qui s'organisent, et la masse urbaine, avec des révoltes sociales qui se mettent en place, des grèves générales, etc., des manifestations monstres. Type mur de Berlin, enfin, type encore une fois ce qu'on a vu traditionnellement, la place Tahrir en Égypte en 2011, etc. Mais c'est pas en vidant les capitales que vous arrivez à quelque chose. Donc, arriver à renverser le régime en faisant ça, à mon avis, c'est une erreur. Au contraire, ça renforce le régime, ça lui permet d'éviter de. Parce que, en fait, ça fait du travail d'ordre public à sa place. C'est-à-dire que vous avez les bombes de l'intervention étrangère. Pas que ça ressoude la population, je pense pas que c'est ça. Je pense que les gens qui ont plein le cul du régime vont pas se mettre à aimer le régime parce qu'il y a des bombes qui sont tombées sur la télévision d'État. En revanche, ça les éloigne de l'endroit où ils pourraient se retrouver pour manifester contre le pouvoir. Donc vous faites en fait le travail de dispersion des éventuels séditieux à la place du pouvoir que vous cherchez à renverser. Selon moi, c'est une très mauvaise stratégie, ça ne peut pas fonctionner. C'est contradictoire. Alors peut-être qu'ils vont arrêter les bombardements ensuite, laisser les gens revenir, etc. Mais à mon avis, c'est mal parti. Si vous vouliez renverser, il valait mieux continuer à taper à la périphérie et épargner Téhéran. À mon avis, ça s'est raté. Mais il y a une deuxième solution, en revanche, qui peut être atteinte pour le coup en tapant malgré tout la capitale et en la bombardant. Mais à ce moment-là, vous comptez sur les mouvements séparatistes. Et là, c'est vrai. Je ne sais pas si tu l'avais montré tout à l'heure la carte en relief, Léo, ou si tu n'avais pas pu la trouver. Je ne sais pas si tu es là ou pas. Léo s'est évanoui avec sa rage de dents.
Tu m'entends?
Oui.
Je l'ai pas montré, non. Tu sais où je peux la trouver?
Tu tapes une carte en relief de l'Iran sur Internet, ça doit se trouver. Mais là, tu dois aussi avoir une. Si, c'est pas grave, tu pourras la mettre en même temps. Si tu as une carte ethnique de l'Iran, j'aurais dû te chercher ça, mais qui montre la représentation avec les Azéris, etc., qui peut montrer aux gens qu'il y a des identités ethniques différentes en Iran. Vous avez une grosse minorité azérie, hein, donc dont l'Iran a peur depuis longtemps de son séparatisme, éventuellement en direction de l'Azerbaïdjan. Donc, si vous avez un séparatisme azéri dans le nord-ouest du pays qui pourrait être excité par l'Azerbaïdjan et par les Turcs. Hein, azéri et turkmène, les deux, hein, donc ce sont des turcophones, pour essayer d'obtenir l'éclatement de l'Iran. Vous avez des minorités kurdes, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire au Moyen-Orient, vous avez toujours des minorités kurdes. Vous avez de l'autre côté du pays, vous avez des balouchtes. Vous savez, les balouchtes qui posent également problème au Pakistan, hein, dans le dos du Pakistan pour le coup, mais c'est aussi dans le dos de l'Iran. Donc vous avez ces régions-là qui posent toujours difficulté. Et à ce moment-là, ça, c'est un autre scénario, et c'est quelque chose qui arrive souvent, hein, malgré tout, hein, en période de révolution nationale. Vous vous souviendrez que pour l'URSS, par exemple, l'URSS a en partie éclaté sous la pression de ces identités locales. Alors, j'ai pas le sentiment, de ce que j'en sais, qu'il y a autant de nationalisme local en Iran. Il y a quand même une identité partagée qui est très ancienne, hein, qui est l'identité des empires perses. Donc, c'est quand même pas un empire aussi jeune que l'était l'empire russe, dont l'empire soviétique était une redite. Mais ça existe quand même. Alors là, donc, sur la carte en relief, vous voyez le côté forteresse de l'Iran, hein, assez clairement, très très compliqué à envahir, surtout qu'au nord, vous avez la mer Caspienne, hein, donc là, y a aucun endroit d'où vous pouvez arriver, et tous les pays voisins, d'où vous veniez, vous arrivez dans des morceaux de montagne. D'ailleurs, si vous regardez ce qui avait été envahi par Saddam Hussein au début de la guerre en Irak, vous voyez qu'ils avaient avancé, ils s'étaient très vite bloqués, ils avaient été très vite bloqués par le relief. Hein. Donc je pense que le côté forteresse iranienne véritablement va jouer, et que donc on entre effectivement en phase dans quelque chose qui sera vraisemblablement une guerre longue, dans laquelle l'espoir que peuvent avoir les Israéliens, mais qui à mon avis est pas le plus facile, je pense très honnêtement que l'Iran est un pays suffisamment unifié pour que le plus grande chance de révolution nationale que vous ayez, c'est avec de l'agitation à Téhéran, de la population éduquée, etc. Je pense que tabler sur les séparatismes, en plus, c'est extrêmement dangereux parce que vous ne maîtrisez pas tellement la suite. Parce qu'un Iran qui éclate, ça pourrait régler temporairement un certain nombre de problèmes pour Israël, mais ça veut dire aussi que vous travaillez pour le roi de Prusse, en l'occurrence, pour reprendre l'expression, en l'occurrence, le roi de Prusse. C'est le sultan turc, hein, c'est-à-dire c'est Erdogan. Hein. Si vous offrez à Erdogan un éclatement de l'Iran où il pourra s'étendre encore plus en direction des minorités turcophones, franchement, vous lui faites un cadeau absolument démentiel, quoi. Donc c'est pas forcément la bonne chose. Je parierais pas, enfin, je parierais pas sur l'éclatement de l'Iran tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront intérêt à essayer de faire éclater l'Iran. Et que c'est un de ceux qui a le plus intérêt à ce qu'éventuellement l'Iran éclate, c'est Erdogan. Alors, je vais vous redire un petit mot dans un instant. Je me fais une petite pause en me servant un coca. Comme vous le savez, j'aime le coca zéro. Toi aussi, Léo, tu aimes le coca zéro?
Il se trouve que j'apprécie le Coca Zéro.
Voilà, oui, évidemment. C'est quoi le prix d'un coca zéro en terrasse? 3,50 € à peu près, moyenne nationale, c'est quelque chose comme ça. Vous savez que plusieurs milliers d'entre vous regardent intégralement toutes les émissions gratuites de la chaîne et ne sont pas souscripteurs de la chaîne, donc ne nous soutiennent pas. Mais si vous nous croisiez avec Léo, je pense que vous seriez content éventuellement de nous payer un coca pour nous remercier des 5 heures de contenu de nos vidéos que vous regardez gratuitement par mois. Alors n'attendez pas, offrez-nous tout de suite nos coca, faites un petit don pour soutenir la chaîne. Vous pouvez le faire en souscrivant, ou vous pouvez faire des dons les plus petits possibles. Vous pouvez même donner 1 € sur Tipeee. Ça nous aidera énormément. Il y a encore 90% de l'audimat qui donne absolument jamais rien. Donc soyez sympa, surtout que ça fait des années que pour beaucoup vous regardez. Soyez sympa, donnez-nous un petit coup de pouce pour nous encourager, et on remercie infiniment, on dira leur nom tout à l'heure, tous ceux qui ont répondu à l'appel encore la semaine passée. Et c'est avec ça qu'on peut essayer de faire de plus en plus de choses. Là, avec Léo, on va enregistrer un nouveau type de format cette semaine. Vous verrez tout à l'heure avec la promo le genre de format qu'on pourrait aussi inventer, type vlog. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, et pour ça, on a besoin de votre soutien. Donc, merci beaucoup. Je continue donc sur ce que ça donnera, parce que j'ai pas parlé de la Russie, et j'ai pas parlé de la Chine, et donc dans le tableau global de la confrontation mondiale. Ben, dans ce tableau global, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. J'ai dit, donc je vais pas revenir dans le détail, hein, sur ce qui pourrait être l'intérêt éventuel de la Russie et la Chine à intervenir. La grande question, c'est pourquoi ils interviennent pas jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que jusqu'ici ils ont plutôt l'air de se défiler. Alors, je pense assez clairement que c'est beaucoup trop tôt pour dire. C'est assez normal même que la Russie, par exemple, n'ait pas démarré au quart de tour pour venir aider l'Iran. C'est aussi normal si la Chine, chez qui virtuellement part tout le problème exporté, tout le pétrole exporté par l'Iran, n'est pas encore, ne soit pas encore intervenue. Pourquoi? Ben parce que justement, il faut se remémorer ce qui s'est passé depuis un an. Et ce qui s'est passé depuis un an, c'est qu'il y a eu plusieurs échanges de bombardements, encore une fois. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Bon, déjà, côté russe, vous avez vu, ils ont laissé perdre la Syrie, ils n'ont pas bougé parce qu'ils n'avaient pas les moyens, très clairement. Donc, ils ont quand même ce problème de moyens qui est leur première préoccupation aux Russes. Mais il y a aussi autre chose, et qui pèse aussi du côté des Chinois. C'est que depuis un an, malgré tout, il y a eu la première attaque, encore une fois, par missile de l'Iran sur Israël, avec des ripostes ensuite israéliennes sur un certain nombre d'assets iraniens dans la région. Il y a eu ensuite les échanges de bombardements d'octobre dernier, hein, où là, les Israéliens étaient carrément allés bombarder des choses en Iran même, et l'Iran, là aussi, avait balancé ses... D'ailleurs, c'était dans l'autre sens, c'était l'Iran qui avait d'abord balancé ses missiles après l'assassinat d'Haniyeh. Et ensuite, donc, Israël était allé bombarder l'Iran. Mais ça s'était arrêté là aussi. Que voient les Chinois et les Russes actuellement? Ils voient qu'effectivement, ça fait une semaine qu'Israël bombarde, vraisemblablement avec plus de détermination. Mais ils voient aussi que malgré tout, ben, les États-Unis ne sont pas encore entrés dans la danse et que Donald Trump semble encore vouloir négocier, notamment parce que lui, il a des problèmes avec sa base électorale qui est très hostile à l'idée de se lancer dans une nouvelle guerre. Et il finit, je pense, un petit peu aussi par croire à son narratif de pacificateur et de type qui ne veut pas faire de guerre. En même temps, il pense que ça coûte cher et que ça ne sert pas grand-chose. Et en même temps, on sent qu'il oscille un peu parce que si jamais le régime iranien devait tomber, il aimerait bien que l'histoire se souvienne que c'est grâce à lui et que c'est lui qui a fait tomber. Voilà. Mais bon, comme on dit, à vaincre sans péril, on évite les ennuis. Donc, il attend éventuellement que les Israéliens les fassent tomber tout seuls pour récupérer les lauriers. C'est comme ça qu'on le comprend. Mais donc, du coup, si vous vous placez du point de vue russe et chinois, ils peuvent encore penser, ça va pas durer. Ça va pas durer, Israël va se fatiguer, ou bien ça va être comme les autres fois, c'est-à-dire que ça aura duré un peu plus longtemps cette fois-ci, ça aura peut-être duré une semaine, ça aura peut-être duré 15 jours, mais ça va se tasser aussi. Peut-être qu'ils recommenceront de bombarder dans 6 mois, mais on verra à ce moment-là, on n'est pas pressé. Alors qu'en revanche, si, que ce soit la Russie ou les Chinois, se décidaient à investir, à mettre des moyens au soutien de l'Iran, déjà, encore une fois, c'est très compliqué matériellement parce que, à la fois, comme je l'ai dit, les Russes n'ont pas trop les moyens. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'improviser en livrant du matériel une défense aérienne, par exemple, que d'avoir la défense aérienne en place à la base. C'est-à-dire qu'une fois que votre raquette commence à être trouvée, dès que vous ramenez quelque chose, ça risque d'être détruit parce que les autres ont une trop forte supériorité. Donc c'est avant éventuellement qu'il aurait fallu venir installer tout ça, ou alors il faudrait le faire en profitant d'une accalmie pendant un moment, pendant 6 mois par exemple, des combats. Mais là, alors que les Israéliens sont en mode démonstration trollolo au-dessus du territoire iranien, c'est pas la peine, il n'y a que des coups à prendre. Mais aussi et surtout, si jamais les Russes comme les Chinois décidaient d'intervenir, bon déjà ils seraient obligés de s'affronter avec Israël, donc ça risquerait de leur coûter cher sur place malgré tout. Mais surtout, ils sont pas sûrs que c'est pas eux qui déclencheraient qu'il se passe quelque chose et que donc au lieu d'être face à quelque chose qui devait durer 15 jours peut-être, et s'arrêter ensuite en leur donnant un répit, ça serait eux qui, en agissant, précipiteraient éventuellement la confrontation, voire l'intervention directe des États-Unis, etc., alors qu'ils ne se sentent pas prêts pour ça. Que les Chinois, ils essaient de calmer le jeu sur les questions commerciales, que la Russie, elle a besoin de tout ce qu'elle a encore pour l'Ukraine. Donc, voilà, je pense, ce qui explique que ni les Russes ni les Chinois ne sont intervenus. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir leur absence d'intervention actuelle comme une éventuelle non-intervention ou une assurance qui n'interviendrait pas du tout si jamais la situation en Iran empirait, c'est-à-dire si le régime véritablement s'affaiblissait ou s'effondrait. La réalité, c'est que jusqu'ici, malgré tout, on ne voit pas d'image, encore une fois, de soulèvement populaire contre le régime iranien, de ce que j'ai dit. On ne voit même pas pour l'instant de véritables manifestations, de choses qui risqueraient de tourner au séparatisme. Pour l'instant, on ne voit pas tout ça. Donc, ils n'ont aucun intérêt, ni les Russes ni les Chinois, à venir mettre le doigt là-dedans parce que ils auraient toutes les chances que ce qu'ils risqueraient de faire empire la situation. Alors que là, ils peuvent espérer qu'Israël va se fatiguer, que la forteresse Iran va tenir, que le régime va tenir. Et que donc, à partir de ce moment-là, c'est à la limite pas mal, parce que ça fait un abcès de fixation. Pour la Russie, en tout cas, comme j'ai déjà dit, si tant que ça renchérit les prix du pétrole, ben, la Russie, elle était en train de ralentir. Économiquement, ça devenait compliqué avec la baisse des prix du pétrole. Ça pourrait permettre de respirer à l'économie russe, d'avoir des devises qui rentrent encore grâce au pétrole. Et pour la Chine, tout ce qui permet de mobiliser les ressources américaines ailleurs, notamment navales, avec ses porte-avions, etc., et qui les éloigne éventuellement de Taïwan et de manière générale de l'ensemble de l'espace dans lequel elle veut être de plus en plus assertive avec sa marine, c'est tout bénef. Donc, vous comprenez qu'il y a là un calcul cynique de la part de la Russie comme de la Chine, qu'on peut être encouragé de se dire, enfin, on peut avoir envie, mais c'est un peu la position occidentaliste bêta, de dire, en fait, c'est tous des péteux, ils font rien, ils sont juste dominés par l'oncle Sam. Je pense encore une fois que c'est plus compliqué comme ça. Il y a un calcul de leur part qui n'est pas idiot, qui est encore une fois de considérer que tant que l'Iran tient et peut se prendre des coups sur la tronche, parce qu'au bout d'un moment, ils prendront des bombes, ils prendront des bombes. Les Chinois et les Russes s'en foutent un peu. Le coût pour eux n'est pas énorme. À part le côté coût de crédibilité parce qu'ils aident pas, mais bon, ça, de toute façon, entre eux, je veux dire, c'est entre états voyous que personne n'est surpris de se larguer et de se laisser tomber comme ça. Donc ça ne choque personne, il faut pas faire semblant d'être choqué. Mais donc, dans le cadre de la confrontation géostratégique mondiale, voilà, je pense que c'est ça qui est à prendre en compte. Je pense que l'intervention éventuelle de la Russie, de l'Iran, s'accroîtrait et de la Chine, éventuellement prendrait une autre tournure, si soit le régime risquait effectivement de se casser la figure, encore une fois, ça pourrait être par l'intervention de redéploiement de trucs genre Wagner, etc., pour aider le pays à tenir, comme ils avaient envoyé des gens au Venezuela d'ailleurs, pour aider le pays à tenir la rue, en fait, si le problème se posait. Soit ça peut être si jamais les Américains se mettent à bombarder, ben, pour essayer d'aider l'Iran à éventuellement provoquer sans que ça se voie le maximum de pertes aux Américains, ou en tout cas faire en sorte qu'ils soient fixés là-dessus tout en ayant des résultats minimaux. Hein. Parce que, encore une fois, je pense que si les Américains décident d'intervenir directement, les prix du pétrole vont vraisemblablement encore connaître une petite montée. Et ça favorisera encore une fois la Russie, beaucoup plus que la Chine, parce que la Chine n'a pas intérêt à payer son pétrole plus cher, mais la Russie a intérêt à le vendre plus cher pour pouvoir continuer sa guerre. Donc il y a tout cet effet-là qui est important, et au plan de la confrontation mondiale, encore une fois, voilà comment je pense que les choses s'articulent, et le pourquoi de la réaction, encore une fois, de la Russie et de la Chine, qu'il ne faut pas trop vite interpréter comme en gros, il n'y a pas de solidarité dans ce bloc, etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et que exactement de la même manière, en fait, que la Chine n'a pas volé au secours de la Russie avec ses difficultés en Ukraine, mais on voit qu'il y a malgré tout une solidarité qui reste, le point de mire étant toujours essayer d'affaiblir ou d'occuper les États-Unis au maximum pour eux, chacun des membres du bloc, puissent mener leur petite partition dans leur coin sans difficulté. Autre acteur qui peut jouer là-dedans, je crois que j'en ai pas parlé lors de la semaine dernière à propos de l'émission de la semaine dernière, c'est la Turquie. La Turquie, il faut bien se rendre compte, a un intérêt à la façon dont les choses évoluent, pas seulement pour le cas de séparatisme éventuel en Iran, mais aussi parce que l'Iran est le parrain traditionnel de l'Arménie, l'autre parrain avec la Russie, qui déjà les a laissés plus ou moins tomber, mais l'Iran tente de enfin, être le principe on va dire protecteur de l'Arménie depuis un an, on va dire, et la principale force de dissuasion de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui tenterait de trouver une continuité territoriale à travers le corridor de Zanguezour, donc en Arménie, notamment parce que, inversement, l'Arménie sert de passage pour l'Iran en direction de son partenaire russe. Ben, il n'est pas du tout impossible que l'affaiblissement de l'Iran assez rapidement débouche sur une tentative turco-azerbaïdjanaise de faire cette liaison à travers le corridor Zanguezour, et donc l'Iran ne serait guère capable de s'y opposer. Il faut se rendre compte que ça fait partie des choses qui pourraient avoir lieu assez rapidement. Et enfin, pour terminer, je disais que l'Iran avait un côté URSS islamiste d'une certaine façon, et ça c'est extrêmement extrêmement important. Ça renvoie à ce que je disais dans l'histoire du siècle à venir à l'époque où j'étudiais là pour le coup pas pays par pays mais la question de ce que j'appelle la civilisation C dans son ensemble, qui en l'occurrence est la civilisation musulmane et donc l'avenir de l'islam en soi. Alors au moment où le bouquin avait été publié, l'Iran semblait en perte de vitesse et c'était l'État islamique qui montait. Donc comme vous savez que dans le cadre de la résolution de la question de la civilisation C, il y a toujours une série de guerres avec la civilisation B. Donc à l'époque, c'était la civilisation C, le judaïsme, et la civilisation B, c'était Rome. Aujourd'hui, la civilisation C, c'est l'islam, et la civilisation B, c'est les États-Unis. Hein. Et donc il y a déjà eu des confrontations diverses et variées, hein, des États-Unis, il y a eu en Afghanistan, il y a eu en Irak, naturellement. À plusieurs reprises, puisqu'il y a eu aussi la coalition contre l'État islamique, qui était un mouvement messianiste, en fait, musulman, mahdiste. Et donc la grande question, c'est que donc on est dans cette phase de suite de séries de guerres, finalement, qui, à la fin, discrédite le volet politique, on va dire, de la religion, et qui permet ensuite d'arriver à sa transition spirituelle, disons, sa spiritualisation et la sécularisation des sociétés. Et donc, ce que je disais dans l'histoire du siècle à venir, c'est que je pensais que la question de l'Iran, alors que l'Iran éventuellement pourrait entrer en recul, en tout cas que le régime des mollahs finirait par tomber, et qu'à ce moment-là, vraisemblablement, il retournerait un petit peu vers les États-Unis, et que ça aurait un rôle très important de disparition, finalement, du rêve, en fait, islamiste politique, d'une certaine manière. C'est-à-dire, de la même manière que la chute de l'URSS a un petit peu tué le communisme, qui est devenu quelque chose de totalement impossible à continuer de considérer comme étant viable. Alors, c'est une idée qui commence à revenir ces dernières années, mais enfin, on a passé 30 ans à penser que le communisme, ça ne marchait pas, c'était devenu la démonstration. Eh bien, vraisemblablement que la chute du mouvement, la chute du régime chiite iranien, clérical, islamiste, etc., aurait un effet assez similaire, y compris jusque dans le monde sunnite, hein, d'affaiblissement de la vision islamiste, et peut-être ça ferait entrer dans le stade terminal, en gros, je dirais pas d'apostasie, mais enfin si, de perte de vitesse de la vision religieuse politique en islam, et notamment affaiblissement, on va dire, général du mouvement des frères musulmans. Ça veut pas dire que ça sera fini, hein. Les frères musulmans, ils sont encore puissants dans un certain nombre de pays, ils sont derrière l'idée de l'AKP d'Erdogan, par exemple, et dans d'autres pays aussi. Mais voilà, en tout cas, ça serait un bastion et un exemple, on va dire, de réussite, d'une certaine manière, du rêve, qui s'effondrerait et qui discréditerait ça assez largement. Et ça correspondrait à ce qu'on a vu, par exemple, avec la révolte, avec la guerre de Kittos, justement, pendant l'Antiquité, dont je parle régulièrement, ou avec la révolte de Bar Korba, un petit peu plus tard. Et donc, je pense qu'on est dans ce mouvement-là, et la chute de l'Iran, en tout cas, au moins s'inscrira, je dis pas que ce sera le point final, mais ça s'inscrirait dans ce mouvement, voilà, de sortie de l'islam, de sa phase monothéisme politique. Hein, vous savez, c'est un concept que j'emploie régulièrement, je renvoie aux vieilles émissions là-dessus, pour ceux que ça intéresse. Voilà sur le commentaire de fond que j'avais à faire sur la transition de la guerre. Je rappelle qu'il y aura un live privé des souscripteurs qui va suivre ce live dans lequel je répondrai à toutes leurs questions. Je ne vais répondre là qu'aux questions qui ont été posées avec un petit don. Est-ce que nous en avons, mon cher Léo?
Alors oui, on a des dons, on a des questions, on a des gens, je pense, à citer qui nous ont rejoints. Je te propose qu'on envoie le teaser avant qu'on réponde.
Allez, vas-y.
Ben, let's go.
Voilà, l'équipe est en route, nous arrivons avec des gens sérieux.
Là, c'est une marche arrière, hein. On n'est pas en train de mettre la vidéo en arrière, quoi. C'est littéralement ce qui se passe. En fait, je suis un peu Tom Cruise, tu vois. Je suis un peu le Tom Cruise des manœuvres de parking.
Le Tom Cruise de Tarbes.
Sauf il y a 3 mois, quand j'ai pété mon pare-brise arrière.
Tu penses qu'on arrivera à faire chanter Philippe pour le vlog? Ah ouais?
Ouais. Parce que Patton, comme les autres, va crever bêtement. Alors lui, c'est un accident de voiture.
C'est un accident de voiture, Patton.
Ouais. Et alors que je crois que c'est, je sais plus si c'est Darlan ou Giro, c'est un accident. Giro, je crois, c'est un accident d'avion. Si mes souvenirs sont.
Ouais. Mais tard, hein, je sais plus. Ouais.
Et en fait, Patton, il commençait à dire que après, donc vers 40, vers 45, il commençait à dire que maintenant il fallait entrer en guerre avec les communistes, parce qu'il était violemment anticommuniste. Et c'était assez gênant, hein, à ce moment-là.
Ouais.
Donc il y en a qui disent que du coup son accident n'aurait pas été fortuit.
Ouais.
Enfin, il aurait été fortuit, si justement.
Après, l'espoir. Tout ce que tu peux avoir, c'est un espoir. C'est que, effectivement, le sens que tu auras donné à ta vie aura un vrai sens.
Ouais.
Et est-ce que ce sens sera absolu ou est-ce qu'il sera relatif? C'est moins pareil. Dans l'absolu, la mort de bison a un bon sens. Mais relativement, au moins, à l'échelle locale du bison, du troupeau, etc., elle a un sens et là je peux gagner.
base, je vous rappelle à tous que nous sommes des primates, qu'on n'est pas nés avec un début de science sur lequel on aurait commencé à tout construire. Là, la réfutabilité est très nette. Chaque fois que je suis tombé sur un contre-exemple, j'ai changé la théorie, et la théorie a progressé. Ça ne l'a pas affaibli, mais au contraire, à la fin, on a vu quelque chose de plus solide et qui fonctionne mieux. On n'a pas encore de revue, on a un congrès maintenant. On aura peut-être d'autres choses, une revue, on va y travailler.
La France est donc bloquée dans son nouvel ancien régime. Mais en général, quand vous avez un ancien régime, vous le savez, ça dure 40-45 ans. C'est l'Empire allemand entre 1870 et 1914, puis 18 surtout, le moment où il s'effondre. C'est l'Empire soviétique entre 1945 et 1991. Je pourrais multiplier les exemples, c'est toujours voilà, une cinquantaine d'années au bout de laquelle ça s'effondre. Et c'est pas ce qu'on voit en France, puisque on commence à être un petit peu, à avoir nettement dépassé les 40 ans après, et ça ne s'est toujours pas effondré. Première motion de censure en 60 ans. On voit des choses qui sont des choses qu'on voit traditionnellement dans les révolutions nationales, c'est-à-dire qu'actuellement, depuis un an, depuis les dernières législatives, donc vous avez une multiplication des commissions d'enquête parlementaires. Et le système de multiplication des commissions, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu apparaître avec l'apparition de l'Assemblée nationale en 1789. C'est-à-dire tout de suite, vous avez des groupes de députés qui veulent s'occuper d'absolument tout, mais ils ont tous leur marotte, et donc ils font des commissions sur absolument tout pour aller voir comment ça se passe, pour réfléchir à ce qu'il faudrait changer, etc. Et en France en particulier, on est bien placé là-dessus, parce que justement, si l'Europe n'est pas à la traîne sur ces grandes technologies, que ce soit le nucléaire, que ce soit le spatial, que ce soit l'intelligence artificielle, et probablement les drones bientôt, c'est grâce à la France, et donc je pense qu'on sera au cœur de ça, et que toute cette mutation qui va donc se faire à l'échelle européenne a de très bonnes chances de profiter à la France, qui en plus devrait être redynamisée par le bouleversement institutionnel qu'elle va connaître, et qu'elle a déjà commencé et qui est en train d'arriver.
J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que j'allais appliquer la méthode Philippe, qui consistait à ne pas parler du sujet pendant la première moitié et revenir dessus par un débile tour de passe-passe rhétorique. Donc c'est ce que je vous propose de faire. Donc je vais commencer par un rappel que je vais essayer d'être assez rapide sur le parcours national d'un point de vue théorique. Ensuite, on va revenir ensemble sur le Canada, comment est-ce qu'il s'inscrit dans le parcours national théorique, de manière un petit exercice pratique. On va faire un petit zoom sur le cas québécois, qui est intéressant en soi, vous allez voir, pour finir par revenir via donc un habile tour de passe-passe rhétorique au sujet initial, qui est la situation stratégique actuelle du Canada vis-à-vis des États-Unis. Comment une population qui sort d'un régime parlementaire se retrouve à refaire un schéma complet. Alors là, je sors du canon à nouveau. Et vous pourrez discuter avec Aurélien, s'il est là, pour lui le traiter de tous les noms, pour lui, il m'a suggéré toutes ses idées, en fait. C'est cruel, mais je me défausse de toutes mes responsabilités. Ensuite, j'ai vu une montrée des extrêmes, qui culmine notamment avec la crise d'octobre qu'on a vue, le Front de Libération du Québec, qui sont des indépendantistes forcenés qui veulent kidnapper les grands bourgeois et les premiers ministres. Une stabilisation thermidorienne, et le monsieur à droite serait le Napoléon québécois.
Ça veut dire que le vlog va se faire...
Strike, on s'en fout, je pense. De toute façon, vu le prix prohibitif auquel va être vendu le vlog... on s'en fout, il fait pas grave en fait. On fera pas de vue en fait.
C'est quand même moins fatigant quand on conduit pas.
Hein. Ah oui, t'as remarqué.
Merci Philippe.
Avec plaisir.
Ravi que tu profites très bien de ta dernière heure.
Bah ouais. Non mais il faut profiter.
Et d'ailleurs ensuite, en soi, le passage au comment ça s'appelle ? Au sacrifice de bêtes à la place du premier-né, c'est déjà en soi une amélioration. Et ensuite, le Christ décide de remplacer l'agneau par lui-même, en fait. C'est lui l'agneau de Dieu. Mais c'est un retour à l'anthropophagie, d'une certaine manière, effectivement, parce que, et donc l'idée du corps du Christ, c'est ça, en fait, il y a ce lien-là. Et alors, pourquoi je dis tout ça? Mais parce que, d'une certaine manière, avec les boomers, on revient à l'anthropophagie primitive. C'est-à-dire, les boomers reproduisent le, non, il ouvre, alors, il vient d'ouvrir une bouteille de coca, il a pas lâché une caisse.
Ben, du coup, ça comptera pas pour concours de paix. Voilà.
Voilà, l'équipe.
Voilà.
Et voilà, on est de retour.
Ah. Alors, il y a du monde. Je crois que ça a commencé ici. Alors, Denis G4, bienvenue dans, en tant que maître historionome. Donc, je sais jamais trop où en est Denis. Thomas Goureux, bienvenue en tant que compagnon historionome.
La semaine passée, on a eu l'homme paysage, Fan Schwanda, Thomas Church, Yem, Antoine Rocklin, Martin Samson et Alain Co. Je pense qu'on n'avait pas parlé d'eux la semaine dernière. Et dans les sur Tipeee, on a eu, attends que je me trompe pas, nous étions le 13. Alors on avait déjà dit Philippe et Yuki, on avait dit. On a eu Charles Gauthier, Frédéric. Natacha qui est là, je crois que c'est la Natacha que nous connaissions qui est revenue, et Julien, je remercie infiniment.
Exactement, ensuite Doumé Fifi qu'on remercie pour son 29e mois d'abonnement consécutif et qui nous dit, en tant que frère historionome, j'ai offert 82,85 Coca
Zéro. Oui, depuis tout ce temps, c'est probable.
Plus ou moins 12 degrés qu'on remercie pour son don. Il nous dit pour un verre de pinard à trifouiller les oies.
Oui, ça fera un vlog.
Exactement.
Ça fait partie des formats envisagés.
On remercie Thomas FRN qui demande, avec l'effondrement de l'État français, peut-on espérer un rattachement de l'Alsace ou du moins du Sungau à la Confédération helvétique?
Non, ça je crois pas. Mais de toute façon, je pense qu'à terme, la Suisse va être intégrée à l'Union européenne. De toute façon, elle l'est déjà assez largement par toutes les exigences qu'il y a pour. Ben, de toute façon, quand vous avez un État qui est enclavé comme ça, en général, il n'y a pas trop le choix, quoi. Donc, je pense pas qu'il y aura de redécoupage dans ce sens-là, non.
Ronald Dorman, qu'on remercie pour son don et qui nous dit par 30 degrés, de Coca-Cola offert en terrasse.
Merci beaucoup.
Nicolas Gatti, qu'on remercie pour son don, et il demande « La chute de l'Iran peut bénéficier à la Turquie, mais est-ce le bon timing pour elle de se retrouver comme l'adversaire d'Israël? Est-elle prête ?»
Ça, c'est une bonne question, mais l'avantage que peut jouer la Turquie, c'est que c'est sa position dans le camp occidental malgré tout. Bon an, mal an, et même si elle en joue et qu'on sait que parfois elle a un côté passager clandestin, mais la Turquie se retrouvera pas dans la même position que l'Iran par rapport à l'Occident, quoi. Donc en fait, Erdogan a beaucoup le choix du tempo, en fait, de par justement sa manœuvre en position à la fois dans le camp occidental et en voulant être une alternative, proposer un ordre alternatif régional à celui d'Israël. Donc, la question du timing, finalement, c'est gérable pour Erdogan. Et puis, a priori, de toute façon, pour moi, il était déjà en train d'envisager. Il avait pris la Syrie, il était en train de s'occuper de récupérer l'Irak. Pas forcément militairement, mais voilà, d'avancer, puisque la Turquie est d'ores et déjà le premier partenaire économique, de l'Irak. Donc, grosso modo, les liens s'approfondir vraisemblablement de plus en plus. Ça peut permettre d'accélérer un petit peu, mais à mon avis, Erdogan reste quand même pas mal maître des horloges dans la région.
On remercie Thomas FRN pour son nouveau don et il nous dit « Léo Merci. Portal ressemble à Olivier d'Artigol ».
C'est un député, ça.
J'ai été voir, ouais.
Ouais. Jeune alors.
Je sais pas.
Et on... C'est les lunettes qui font beaucoup.
Ben c'est ça, ouais, je pense. Et on remercie Jessica pour son don et elle nous dit pour le passage sur le sens de la vie. Donc c'est toi avec le bison.
Merci.
Et ce vlog de qualité supérieure, big up et bravo Tom Cruise.
Et ça on... c'est pour toi.
C'est pour moi. Comme 90% des dons. écoute, on a terminé.
Mais écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Je pense vraiment que vous régalerez avec une fois que tout ceci sera mis en place. Encore une fois, je vous dis, on va tourner un nouveau type de format cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera en ligne, mais voilà, on a une sorte de voilà depuis 2 ans, on est vraiment dans la là, on était en régime de croisière un petit peu. On se relance à nouveau dans des trucs là de qu'on veut changer sur la structure de la chaîne, on veut avancer un peu, faire un certain nombre de choses différemment. Et donc, on a besoin de votre soutien. On vous remercie d'être là et d'être de plus en plus nombreux là et pour beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Encore une fois, c'est très, très important. Ça nous encourage. Ça nous donne de la, comment dire, de la marge de manœuvre aussi. Et donc, ça, c'est très, très important. Donc, on vous remercie et on est là, on continue. Et vous laissez pas faire.